Chapitre 26e. Petite vipère. Une demi-heure à peine après que la maison eut été évacuée, paraissait à l'entrée de la ruelle un centurion avec ses hommes munis de torches. Adam marchait à côté de lui. « Est-ce cette rue ?» demanda le centurion. « C'est celle-ci.
Marchons, nous y serons bientôt, »
répondit l'enfant. Il se disait en lui-même, « J'ai été bien prudent de penser à poster un veilleur à la porte. Tout change d'aspect quand les boutiques et les ateliers sont fermés, et quand les torches donnent une faible clarté qui ne fait qu'épaissir les ténèbres.
Mais où est le garçon ?»
Adam regardait à gauche, à droite, personne. L'inquiétude le gagna. Il courut un peu en avant de la troupe et chercha à s'orienter, mais c'était impossible. La rue ne se composait que de petites maisons sans apparence, habitées par des marchands ou des artisans. Toutes ces maisons avaient le même aspect. On eût dit un long mur percé de portes. Dans l'Antiquité, et maintenant encore pour certaines villes éloignées comme Damas par exemple, les maisons en Orient ne ressemblaient nullement à celles que nous habitions. C'étaient des carrés de murailles avec une cour intérieure sur laquelle les appartements prenaient le jour. Du côté de la rue, il n'y avait que la porte d'entrée devant laquelle les boutiquiers étalaient leurs marchandises, qu'ils renfermaient dans l'intérieur après le coucher du soleil. Le malheureux Adam n'avait donc aucun point de repère. Il courut en désespéré jusqu'à l'extrémité de la rue.
« Halte ! »
lui cria le centurion d'une voix de tonnerre. « Veux-tu nous échapper après nous avoir joués ?»«
Ni l'un ni l'autre, » répondit l'inconsolable Adam. « Je cherche seulement le confiseur et le garçon que j'ai posté. »
« Ton planton a levé le pied, mais le confiseur doit pouvoir se trouver, » dit le centurion. Il ordonna à ses hommes de cogner à la première porte venue avec le bois de leur lance. Malgré le vacarme qu'ils produisirent, il se passa un intervalle assez long avant qu'une voix leur répondît de l'intérieur. « Qui est là? Que voulez-vous »«
Y a-t-il un confiseur dans le voisinage ?» demanda le centurion.
« La première porte à gauche, » répondit-on. « Alors c'est ici, » fit Adam.
Il courut comme un trait à la porte qui se trouvait en face de celle qu'on venait de désigner. La troupe le suivit.
« Ouvrez ! Ouvrez !»
crièrent les soldats en frappant un coup redoublé. Aussitôt une voix masculine, étreinte par la peur, se fit entendre.
« Allez-vous-en, mauvais garnement, je n'ouvrirai pas !»«
Je suis le centurion Martial.
Le préfet de Constantinople m'a donné l'ordre de fouiller votre maison. Si vous n'ouvrez pas à l'instant, je vais enfoncer votre porte. » Les verrous furent tirés. Immédiatement, la troupe tomba sur la porte, qui en s'ouvrant poussa de côté un homme déjà âgé, tout tremblant de peur.
« Je suis un pauvre homme, » dit-il. « Je fais mes petites affaires sans usure. »«
Où est la demoiselle ?» fit le centurion d'une voix terrible.
« Ma fille, vous voulez dire ?» fit le vieillard.
« Ta fille, vieux fou, ne nous inquiète pas.
Nous cherchons une noble demoiselle de la suite de l'impératrice. »«
Cherchez, »
dit le vieillard d'un ton ironique. « Et puissiez-vous la trouver aussi sûrement que je retrouverai ma fille ?»
La maison fut bientôt inspectée de fond en comble. Ni le rez-de-chaussée habité par le vieux changeur, ni les étages supérieurs ne contenaient de cachette où Gunil peut être enfermé. Adam se frappait le front des deux poings et s'arrachait les cheveux. Ce spectacle réjouit le vieil usurier.
« Je suis bien aise, »
dit-il, « quand je vois d'autres gens dans le même désespoir que j'ai eu quand ma fille a disparu. »«
Vieux monstre !» cria Adam.
« Ainsi, il y a demoiselles perdues au lieu d'une ?» fit le centurion en riant. « Maintenant, ce n'est pas tout. Dis-moi, vieux, y a-t-il d'autres confiseurs dans la rue que celui qui demeure là en face ?»«
Je suis un pauvre homme, » répondit-il d'un ton morose.
« Je n'ai rien de commun avec les bouches friandes. »«
Fort bien, »
dit le centurion en l'interrompant. « Marche devant nous et montre-nous le confiseur le plus proche. »«
Quoi ? Je dois abandonner ma maison, ma pauvre maison, pendant la nuit ?»
cria le vieux changeur tout effrayé.
« Celui qui est pauvre n'a pas à craindre les voleurs. Marche devant !»«
Oui, marche devant !»
cria Adam, avide de vengeance.
« Dois-je aller à votre place ?» demanda une vieille femme du fond de son coin où elle était restée tapie.
« Oui, conduisez-les à Pauline, » soupira-t-il, « et revenez tout de suite, afin que je puisse fermer la maison.
Je suis si pauvre que je n'ai qu'elle pour tout domestique. »
dit-elle au centurieux. « Je vous en prie, renvoyez-la bientôt. »«
Soyez sans inquiétude. Votre Apolline est de ces créatures que je ne veux pas avoir sous les yeux une seconde de plus qu'il ne faut. Maintenant, en avant. »
Apolline ouvrit la marche,
fit rebrousser chemin à la troupe et s'arrêta devant une porte.
« C'est ici, » dit-elle.
« Y en a-t-il encore d'autres dans la rue ?» demanda le centurion.
« Non, il n'y a que ces deux. »
« Maintenant, mon garçon, où faut-il frapper ? Garde-toi de te tromper de porte !» dit le centurion d'une voix menaçante.
Adon tremblait de peur.
Il désigna d'une main fiévreuse la porte qu'il croyait être la vraie et qu'il était réellement. Aussitôt qu'elle fut ouverte, une dame mise convenablement se montra avec une lampe à la main. Elle demanda, d'un air étonné mais calme, ce qu'on voulait d'elle, et conduisit le centurion dans toute la maison en lui racontant qu'elle vivait avec ses quatre fils, et qu'il donnait aussi asile à quelques amis de ses fils, braves jeunes gens qui vivaient du travail de leurs mains. Autrefois, elle avait été dans une position plus aisée, mais maintenant elle était à la charge de ses enfants, qui s'efforçaient de lui rendre la vie le plus agréable possible. Tous ces braves gens et ses excellents fils dormaient aux étages supérieurs. Ils sortirent en sursaut de leur sommeil, vrai sommeil de juste, et regardèrent avec étonnement ces visiteurs nocturnes qui leur apparaissaient comme en rêve. La ronde s'acheva sans dévoiler rien de suspect. La dame ouvrit encore une porte au rez-de-chaussée. La pièce était vide. Le centurion y jeta un regard rapide et passa outre. Mais Adon s'élança dans la chambre, leva le nez en l'air, respira longuement et poussa un cri de joie.
« Elle a été ici !»
Le centurion revint aussitôt sur ses pas et ordonna au porte-torche de scruter tous les coins de la pièce afin de découvrir la cachette qui pourrait s'y trouver.
« Oh, malheur! Éloignez ces maudites torches !» cria Adon.
« Jeune fou! Comment la chercher, la trouver dans les ténèbres ?»«
Est-elle encore ici? Je n'en sais rien, » dit Adon. « Mais elle y a été. En entrant, j'ai senti les parfums que portent les grandes dames, et qui me semblent presque aussi doux qu'un bâton de sucre dans la bouche. Maintenant, la fumée des torches a étouffé la bonne odeur. »
« Vous avez le nez fin, mon enfant, » dit la dame avec un sourire amical, « mais pas assez fin encore. » Un de mes fils est jardinier. Nous avons eu des fleurs dans cette chambre. Des fleurs qui ont un parfum suave. On les a emportées ce soir pour orner la salle d'un festin.
Suffit, elle n'est pas là.
Et toi, mauvais gamin, tu as osé nous berner ? Dit le centurion avec une colère telle qu'Adon tomba d'effroi sur les genoux en demandant grâce.
Qui aurait supposé tant de méchanceté chez un si jeune enfant ? Dit la dame d'un ton doucereux.
Vilaine sorcière ! « Elle a été ici, je le soutiens !» cria Adon en s'élançant sur elle, pâle de colère. La dame secoua les épaules d'un air de pitié.
« L'enfant est apparemment hors de lui de désespoir. Il faut avoir compassion de lui, » dit-elle.
« Partons !» dit le centurion d'un ton de commandement. La troupe se mit en mouvement et quitta la maison en entraînant l'inconsolable Adon.
« Petite vipère !» fit la dame en elle-même, en verrouillant soigneusement la porte. « Il faut plus se défier du flair d'un pareil gamin que de toute une armée de prétoriens. »
Pendant ce temps, le veilleur infidèle, qui avait causé la déconfiture d'Adon, conduisait Gunilde au palais Constantin. Mais elle était dans un quartier éloigné, à pied, à une heure avancée. La route semblait s'allonger sans fin devant elle. De temps en temps, il venait à l'idée que l'enfant pouvait l'égarer à dessein. Elle avait entendu parler du danger de traverser les rues la nuit. Mais elle n'osait questionner personne, pour ne point montrer de défiance à son guide, et aussi pour éviter d'attirer plus encore sur elle l'attention des passants. Sa tenue ne pouvait manquer de la faire remarquer infiniment plus qu'elle ne l'aurait désiré.
« Laissez-les dire et venez. Nous y sommes bientôt, » disait le gamin d'un air indifférent. Mais ce bientôt n'avait pas de fin.
Cependant, quand elle fut plus près du palais impérial, quand ses yeux reconnurent des objets familiers, quand elle retrouva ici une colonnade, plus loin la maison de la belle Thaïs avec ses riches pilastres corinthiens, quand enfin le palais lui-même fut devant elle, éclairé par les gerbes de feu qui brillaient à l'entrée et près du poste des prétoriens, alors son âme s'éleva à Dieu avec un vif sentiment de reconnaissance. Toute crainte, toute défiance disparut de son cœur soulagé. Elle se mit à marcher d'un pas ferme et léger.
« Voyez, nous y sommes !» dit l'enfant joyeux. « Ne vous avais-je pas bien amené ?»
« Oh, si bien que je ne t'oublierai jamais !» répondit-elle, profondément touchée.
« Maintenant, suis-moi »
dit-elle en entrant dans la première cour du palais. Arrivée dans la cour intérieure, elle fut aussitôt reconnue par quelques domestiques qui la saluèrent avec bonheur. L'un d'eux courut en avant porter au chambellan de l'impératrice la joyeuse nouvelle. Aussitôt Hylas vola au-devant d'elle.
Je prie la noble Gunhilde, dit-il, de venir tout de suite rassurer l'impératrice et la délivrer de l'inquiétude douloureuse où elle se trouve depuis 3 heures.
Voyant que vous n'étiez pas arrivé 1 heure après le coucher du soleil,
les femmes qui vous servent commencèrent à s'inquiéter et tout le palais retentit bientôt de leurs plaintes. Aussitôt l'impératrice envoya prendre des informations auprès de la noble Olympia et de la noble Pentadia. La première répondit que vous étiez allé chez Nicarété, mais chez Nicarété personne ne vous avait vu paraître. À l'heure qu'il est, on parcourt la ville dans toutes les directions pour vous chercher. Où était donc la noble Gunhilde ? Ajouta-t-il en jetant un regard étonné sur son pauvre petit compagnon. Elle écouta avec fatigue tout ce long récit et alla droit à l'impératrice. Hylas tira la courtine de la porte et annonça Gunhilde. Quand Eudoxia vit Gunhilde, les joues enflammées par la fièvre, les yeux fatigués, le visage tiré, les cheveux en désordre, la robe souillée de poussière dans le bas, elle poussa un cri d'angoisse. « Gunhilde, où étiez-vous ? »
« Je ne sais pas, » soupira Gunhilde.
Elle tomba sans connaissance aux pieds de l'impératrice.